Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans son journal en miettes, publié en 1967, Eugène Ionesco notait « Tout ce que je sais maintenant, je le sais depuis l'âge de 6 ou 7 ans ». Né en 1909 en Roumanie, l'écrivain grandit entre la France, où il vécut de 2 à 13 ans, et la Roumanie, qu'il quitta à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1975, dans les deux premiers volets d'une série d'entretiens accordés à Claudine Chonnaise, il évoquait cette jeunesse entre deux pays, son enfance heureuse en France et son adolescence triste dans la Roumanie de la Garde de Fer, puis la création de sa première pièce, montée en 1950 au Théâtre des Noctambules à Paris. Pièce, ou plutôt anti-pièce, comme l'indiquait le sous-titre, qui s'appelait à l'origine « L'anglais sans professeur » et devint finalement « La cantatrice chauve ». Mais au fait, pourquoi cantatrice et pourquoi chauve ? Réponse dans ces deux émissions diffusées pour la première fois sur France Culture les 17 et 18 mars 1975.
Eugène Ionesco, je vous connais depuis très longtemps et vous n'êtes pas tout jeune. Eh bien, moi, je vous vois toujours comme un enfant, sous votre génie et sous toutes vos qualités d'adulte. Je vous trouve une figure d'enfant, mais bien entendu d'un enfant boudeur, d'un enfant malheureux qui aurait perdu le paradis enfantin et qui aurait l'impression qu'il ne comprend pas le monde des adultes et que d'ailleurs les autres ne le comprennent pas. Est-ce que vous sentez en vous ce côté enfant qui voudrait être émerveillé et qui n'arrive plus à l'être ?
J'y arrive, mais très rarement. En effet, j'ai beaucoup souffert d'avoir perdu ce monde par les sacs de l'enfance. Je me sentais vieux déjà à l'âge de 14 ou 15 ans. J'avais déjà irrémédiablement perdu mon enfance.
Vous avez raconté que l'idée de la mort vous était venue avec l'âge de raison.
Oui. Même avant. C'est-à-dire, nous ne sommes plus enfants à partir du moment où on sent qu'il y a le temps, que l'on vit dans le temps. À ce moment-là, les années deviennent plus courtes et 24 heures de la vie d'un adulte ne vaut pas même une heure de la vie d'un enfant. À partir de 14 ans, donc, je me suis dit, je ne suis plus hors du temps comme je l'étais avant. On a l'impression que c'est le monde et ses saisons qui tournent autour de vous. Et à un certain moment, à partir d'un certain moment, on est jeté dans le temps. Alors, ce temps long de l'enfance, très très long, ça ressemble un peu au monde immortel de l'éternité. C'est pour ça qu'on dit que l'enfance est paradisiaque. Alors de plus en plus, les années vont vite, le temps s'abrège. Et d'autre part, rien ne vous paraît plus merveilleux.
Vous avez été heureux comme enfant, vous avez des souvenirs, enfin naturellement vous avez des souvenirs pénibles, on en a toujours, mais vous avez aussi, vous avez écrit dans le journal, en particulier je crois dans le journal en miettes, des souvenirs extrêmement touchants et très, très attendris.
Oui, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance très heureuse.
N'est-ce en France, parce que vous êtes roumain d'origine, France. Tout le monde le sait, mais enfin...
D'accord. J'ai passé, enfin, en France, j'ai passé une partie de mon temps à la campagne. Et c'était le bonheur absolu. J'ai eu une enfance heureuse. Mais cette enfance heureuse a été corrigée par une adolescence malheureuse en Roumanie. C'est-à-dire, je suis arrivé en Roumanie quand j'avais 13 ans et demi, à peu près, et tout m'allait plus. dès le départ, dès le premier jour. Par exemple, le premier jour où je suis arrivé, j'ai vu mon père, et il m'a emmené se promener avec moi dans la rue, et à ce moment-là, nous avons vu passer une troupe. Je crois qu'il relevait, c'était pour relever la garde. Et il y avait les porte-drapeaux et le drapeau, bien entendu, du régiment et un sous-lieutenant à côté des gardes-drapeaux. Quelques gens regardaient, moi, et à côté de moi, un paysan un peu ahuri, étonné, qui avait son chapeau sur la tête. Son chapeau, je veux dire, cette coiffure qui s'appelle Kachula et que portent les paysans, et c'est un bonnet de fourrure. Alors il regardait, bouche bée, ce qui se passait devant lui. Le sous-lieutenant l'aperçoit, va vers lui et lui donne deux gifles. Et il dit, il faut saluer quand passe le drapeau du pays. Alors à ce moment-là, j'ai décidé deux choses, que je n'aimerais plus les drapeaux d'aucun pays, et deuxièmement, qu'il fallait absolument que je retourne en France.
Comme vous êtes né en 1912, ceci se passait donc, mettons, à peu près vers l'année 1926.
C'est ça,
1926. Les choses n'ont fait qu'empirer ensuite, avec la garde de fer et les événements que nous connaissons.
Ça, c'est-à-dire, et puis une dureté dans les rapports humains, une dureté, une hiérarchie assez stricte. Mais c'est surtout la garde de fer, l'antisémitisme qui rendait la vie absolument intenable. En classe, au lycée, sur 40-45 élèves, il y avait 5 juifs. Ces 5 juifs apprenaient très bien, ils étaient parmi les premiers de la classe, mais ils étaient tout le temps persécutés, giflés. Battu, montré du doigt par le professeur qui disait ceux-là qui sont coupables du bolchevisme, de toutes ces choses-là. Alors la vie devenait de plus en plus intenable et je me sentais très seul. Je me sentais très seul surtout parce que mon père s'était remarié et il s'était remarié avec une bourgeoise. Une bourgeoise roumaine. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une bourgeoise roumaine. Et les beaux-frères, c'était un capitaine et un autre, un fonctionnaire supérieur du ministère de l'Agriculture. Alors, ce que j'ai pu voir de vulgarité, d'arbitraire dans ce pays et dans cette famille, c'est inimaginable.
Et votre père aussi était assez autoritaire.
Il avait un locataire dans le fond de la cour. Un locataire qui était un juif qui devait avoir 60-65 ans. Et il voulait se débarrasser de ce locataire. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait quand même des lois. Il avait payé son loyer à l'avance. Alors, il l'attendait qu'il entre dans la cour. Et il le battait. Il avait, bien entendu, une bonne. Un jour, un galant vient chez la bonne. Il le fait sortir de la chambre de la bonne, qui était en même temps la cuisine. Il la fait sortir et il se met avec ses deux beaux-frères, il se met à taper dessus. Bon. Cet homme n'avait aucun moyen de défense parce que la police n'aurait pas voulu enregistrer sa plainte, étant donné que mon père était avocat, etc. Et ça, c'était très important là-bas. Et lui-même ne se serait pas présenté au commissariat parce qu'il savait ce qu'on pouvait lui faire, c'est-à-dire l'injurier, le battre et le chasser.
Donc votre haine de toute dictature ou coercition, qui est si visible malgré l'évolution de votre théâtre, mais enfin d'un bout à l'autre de ce que vous écrivez, a des racines très profondes, comme tout ce qu'on pense étant adulte, dans l'enfance.
C'est ça.
Ça remonte très loin dans l'enfance. Et c'est à ce moment-là, si je me souviens bien, enfin un peu plus tard, mais toujours en Roumanie, devenu étudiant, vous êtes justement, je crois que maintenant vous n'aimez plus beaucoup le mot, mais enfin on peut l'employer pour ce temps-là, contestataire. Puisque vous écrivez, si j'ai bonne mémoire, une espèce de pamphlet contre certains écrivains qui s'appelle tout simplement « Non ». Ce qui dit bien ce que ça veut dire.
Oui, mais je suis encore contestataire. Mais je n'ai pas été avec la contestation de 1968 parce que on ne pouvait pas savoir ce qu'elle était.
Revenons alors à votre adolescence. En même temps, vous écriviez donc des pamphlets assez virulents et en même temps aussi, vous avez écrit à 17 ans un recueil d'élégies. Ça s'appelle Élégie.
Oui. Pour les petits êtres. Enfin, mais il ne faut pas me parler de ce recueil de poèmes parce que.
Il était pas très bon à 17 ans.
Rimbaud, lui, il en faisait des.
Oui, enfin, vous savez, Rimbaud, c'est rarissime. Vous voulez être tout alors. Vous voulez être Ionesco, puis en plus Rimbaud, c'est peut-être beaucoup demandé. Ensuite, donc, vous n'avez rien de plus pressé dès que c'est possible, c'est-à-dire juste avant la guerre, de revenir en France. C'est que vous êtes revenu en France sous le prétexte de faire une thèse. Quel était le titre de la thèse qui avait été le prétexte de la bourse, qui n'a d'ailleurs jamais été écrite?
Le thème du péché et de la mort dans la poésie française depuis Baudelaire.
Oui. Est-ce que ça a été écrit?
Pas du tout. Enfin, j'avais pris beaucoup de notes.
Est-ce que ce titre a été choisi un peu au hasard pour dire « je prends n'importe quoi pour aller en France » ou est-ce que ça correspondait, ce qui serait très intéressant, déjà jeune comme vous étiez à ce moment-là, à une espèce d'obsession intérieure? Tout de même, je constate votre premier ouvrage signalé à l'attention du public aurait été de toute façon déjà quelque chose sur la mort.
C'est évident. C'est un problème qui me tenait à cœur, comme on dit.
Pourquoi le péché ajouté à la mort? Ça m'intéresse beaucoup, ça. Parce que la mort, ça aurait suffi. Le thème de la mort chez les romantiques ou chez Baudelaire. Hein, ça, pourquoi alors le péché aussi?
Parce que, à ce moment-là, j'avais aussi des problèmes religieux. C'est-à-dire, en réalité, c'est pas le thème du péché et de la mort que j'aurais dû dire, c'est le thème du mal et de la mort.
Oui.
Parce que le problème, un des problèmes les plus importants, après celui de la mort, c'est le mal, qui finalement est la mort.
Oui.
Puisque le mal est destructif. En fait, d'ailleurs, ce qui m'a empêché d'avoir une foi religieuse, c'est justement ce problème du mal. Pourquoi y a-t-il du mal?
De ne pas admettre que l'homme est responsable, si on peut dire, de la mort, parce qu'il l'a mérité par le péché originel.
C'est ça.
C'est une chose que vous n'admettez pas.
Oui, c'est ça.
La responsabilité des pères retombant sur les enfants jusqu'à la xème et xème génération.
C'était le premier volet d'une série d'entretiens avec Eugène Ionesco, menée par Claudine Chonaise, et diffusée pour la première fois le 17 mars 1975. Tout de suite, le deuxième moment de cette rencontre.
Donc, je suis revenu en 1938 pour une thèse de doctorat. J'ai eu une bourse du gouvernement français et ça allait très bien. Bien que contestataire comme je l'étais à l'époque, j'ai profité quand même de mon état de bourgeois. Donc on m'a donné cette bourse, une bourse qui était prise sur les fonds qui devaient être attribués aux chômeurs intellectuels. D'autre part, j'étais professeur de lycée, j'avais un suppléant et je recevais une partie de mon salaire que je partageais.
Donc vous n'étiez pas trop pauvre.
Bon, en tout cas, en 1938, avec la décision de ne plus quitter la France. En 1940, il y a eu l'invasion allemande. j'étais en France et l'attaché militaire roumain nous a conseillé énergiquement de rentrer en Roumanie. Autrement, disait-il, il ferait appel à la police allemande. Je suis allé en Roumanie. Et j'ai repris mon poste de professeur de français. En 1942, j'ai pu repartir pour la France. J'avais un passeport roumain. J'étais donc un ressortissant des pays de l'Axe. Alors j'ai pu obtenir, avec beaucoup de difficultés, mon passeport pour la France. J'arrive en France, j'avais encore une petite bourse, mais enfin, je n'avais plus les moyens de vivre. J'ai rendu des services culturels à la littérature roumaine, et j'ai traduit un livre, et puis j'ai fait plusieurs émissions sur la poésie roumaine actuelle. Vers la fin de la guerre, j'étais à Marseille, d'ailleurs je vivais davantage à Marseille, là où j'ai connu Léon-Gabriel Gros, Ballard, oui. Bertin.
Le vieux Ballard des Cahiers du Sud, oui, oui, qui a beaucoup du fait Sud. Pour les réfugiés intellectuels.
Oui, oui. Et j'ai failli être tué par les Allemands, parce que, au moins je n'avais pas participé au combat, mais il y avait dans la maison des caisses de munitions. Et on avait tiré de la maison boulevard Pasteur où on était sur les Allemands qui étaient au fort Saint-Nicolas. Alors ils sont venus tous nous ramasser. Et ils n'ont pas eu l'idée de dire aux femmes de se lever. Parce pour à ce moment-là, ils auraient vu les munitions. Bref, ils nous ont laissé partir. Ils en ont tué deux qui voulaient s'enfuir. Et puis...
Vous avez assisté à ça?
Oui, bien sûr, parce que j'étais parmi ceux qu'on avait mis... au mur.
Pour le moment, continuons un petit peu votre biographie. Vous voici donc en France à la fin de la guerre, probablement pas riche.
Pas riche, non. Je n'étais pas riche du tout.
Alors, marié?
Non, j'avais une femme, j'avais une fille. Ça n'allait pas, oui, ça n'allait pas. Et enfin, il y a eu des moments vraiment très très durs. J'ai travaillé chez Ripollin, qui est ouvrier. Chez Ripollin.
Vraiment ouvrier, même pas employé aux écritures, enfin.
Ah non, 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 j'étais vraiment ouvrier, c'est-à-dire que je chargeais et je déchargeais des camions, de gros camions de peau de couleur. Bon, maintenant, je ne pourrais plus faire ça, évidemment, heureusement, je n'en ai pas besoin. Et puis après, j'ai trouvé un emploi comme correcteur dans une maison d'édition. C'était quand même mieux. Et c'est là où j'ai commencé à écrire. Et cela m'a beaucoup, beaucoup servi, parce que je corrigeais les textes juridiques, et ça m'a beaucoup appris, ça avait appris beaucoup de choses à Stendhal. Et puis, il y avait le dialogue vivant des gens moyens, comme ça. Et je crois que cela m'a beaucoup aidé.
Alors, nous arrivons, nous voici en 50, et la fameuse date... Mortel de la cantatrice chauve, racontez-nous un petit peu. Vous faites jouer la cantatrice chauve grâce à Nicolas Bataille.
Oui, c'est-à-dire c'est une amie commune qui lui avait donné ce texte.
Oui.
Bon, ce texte, il s'appelait L'anglais sans professeur, était inspiré des manuels de conversation.
Oui, nous savons, d'Assimil ou autre, oui.
C'est ça. Et je ne pensais pas que c'était une pièce. C'est pour ça que je l'appelais anti-pièce. Je pensais que c'était une fausse pièce. Et je lisais ça à des amis qui venaient me voir pour rire ensemble. Et cette amie commune, qui est Monique Lovinesco, a donné le texte à Nicolas Bataille, qui l'a lu dans le métro et il m'a raconté plus tard que tout le monde le regardait parce que il... il riait tout seul. Et puis, il a lu ce texte à ses amis. Ils ont décidé de jouer la pièce. Alors, à ce moment-là, ils ont dit, c'est une pièce, anti-pièce ou non, c'est une pièce et... bien. Alors, à ce moment-là, ils n'avaient pas de théâtre. Ils avaient tout simplement une troupe. et il n'avait pas un sou pour monter cette pièce. Alors finalement, nous avons été accueillis par le théâtre des Noctambules et j'ai emprunté de l'argent pour monter cette pièce, 54 000 francs. En 50, c'était beaucoup, ça faisait, je sais pas, presque un million aujourd'hui. Et puis alors, ma femme s'est mise à travailler aussi jusqu'en 56 pour que nous puissions payer cette dette. C'est la première et dernière fois que j'ai donné de l'argent pour monter mes pièces.
Et actuellement, dans le monde entier, nous en sommes à combien ?
Dans le monde entier ?
Oui.
Oh, je ne peux pas compter.
Quand on dit 4 à 5 000, c'est en France ?
Si, oui, 5 000.
C'est uniquement à Paris, en particulier au théâtre de la Huchette.
Ouais. Uniquement à Paris.
4 ou 5.
Parce qu'il y a, la province, il y a les pays étrangers,
tout ça. Ça a été joué partout.
Oui, je crois.
Même en anglais, ce qui est plus difficile, parce que je ne sais pas comment ils ont pu transposer la méthode à 6 000, je ne sais pas très bien ce qu'ils ont pu faire.
Oui, mais oui. Puis en Amérique, on l'a joué beaucoup.
Mais alors,
en Amérique, en Angleterre, ils ont pris ça pour une pièce anti-anglaise. Et c'est pour ça que ça a eu du succès chez eux.
Ah, c'est très drôle, oui. Les malentendus sur le sens de vos pièces. Une chose qui vous exaspère un peu, à juste titre, mais que très souvent, on ne comprend absolument pas. Et vous avez un très vif succès, et vous en êtes furieux, parce que ce n'est pas du tout celui que vous auriez voulu.
Exactement.
Il y a un malentendu sur le sens profond.
Comme disait Adamov, l'insuccès ne prouve rien, et le succès non plus.
Oui.
Ou alors, il disait aussi, nous sommes admirés ou détestés et toujours par malentendu. J'ai d'ailleurs un exemple tout à fait récent de cela. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Macbeth.
Oui.
Ça a été joué à l'université de Yale, où il y a une demi-heure troupe d'Amérique. Et ils m'ont envoyé une lettre en me disant, mais votre pièce est formidable. Comment avez-vous su? Comment avez-vous pu apprendre ce qui se passe chez nous avec Nixon ?
Tout en sachant bien que vous aviez choisi un titre absurde exprès, bien sûr. Mais enfin, pourquoi la cantatrice chauve ?
Pourquoi cette pièce s'appelle-t-elle la cantatrice chauve ? Eh bien, c'est grâce à un lapsus. J'étais beaucoup plus jeune, bien sûr, en 1950, mais déjà chauve. Alors, on avait essayé pendant longtemps, chercher un titre, Big Ben Folie ou L'heure anglaise, etc. On n'était pas content de ce titre. Et dans le monologue du pompier, qui est un long monologue, on parle aussi d'une institutrice blonde. Et le comédien qui me regardait et qui regardait probablement le haut de ma tête, au lieu de dire une institutrice blonde, il a dit une cantatrice chauve. Alors j'ai dit, mais c'est ça le titre. Et puis on l'a gardé.
Et voilà un point d'histoire éclairci, parce que beaucoup de gens se sont demandé pourquoi.
Maintenant ça se fait. Par exemple, Handke a écrit une pièce qui s'appelle La chevauchée du lac de Constance.
Oui, oui.
Un titre qui n'a rien à voir.
Rien à voir avec la pièce.
Avec le texte, qui est aussi un texte insensé.
Alors, et en même temps que la cantatrice chauve, vous jouiez aussi. Vous avez été acteur notamment dans Les Possédés, d'après Dostoïevski.
Oui, c'était une mise en scène d'Akakia Viala. Et on m'a donné un rôle parce que la première fois qu'on a joué cette pièce au Noctambule en 1950, ça a été joué pendant 6 semaines. Il n'y avait personne dans la salle, sauf ma femme. Pendant Nicolas Bataille, qui a réussi à avoir, grâce à Akakia Viala, une certaine somme pour jouer les possédés, pour me consoler, il m'a demandé de jouer un rôle dans cette pièce. Un rôle que je continue de jouer sans arrêt depuis le temps, c'était le rôle du père de Verkhovensky, ce vieux libéral qui ne comprend plus ses enfants, la contestation, la négation de toutes les valeurs, et il continue de vivre en humaniste dans un monde qui a perdu son humanité, ou bien se considérait que devait être l'humanité jusqu'à une certaine époque.
Vous aimiez beaucoup jouer ? Le fait d'être acteur, ça vous amusait énormément ou non ?
Ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a intéressé. J'ai eu beaucoup de mal à apprendre le texte. Je n'ai pas une bonne mémoire. Et surtout, je n'avais pas de trac. Parce que ce n'était pas mon texte. Je n'étais pas responsable. Alors je me disais, si les gens sifflent ou chahutent, c'est pas ma faute. Ça sera la faute de Dostoïevski. Pourtant, j'ai eu le trac parce que j'avais une perruque et j'avais peur qu'elle ne tombe. Alors, je la retenais tout le temps. Et puis, on m'a dit, mais c'est ça, le trac. Il s'est fixé sur la perruque. Mais j'ai joué plus tard dans un film qui s'appelle « La Vase » où je jouais le rôle principal et unique, les autres ne sont que des figurants. Et alors là, j'ai vraiment été malheureux. Et je me demande comment des gens peuvent être comédiens.
Échapper au trac. Pourquoi étiez-vous malheureux cette fois-là ?
Parce que ce personnage que j'avais créé, parce que la vase
a
été d'abord une nouvelle, oui. Alors je ne pouvais plus supporter ce personnage. Oui. Et puis alors, il y a des difficultés physique, rester dans la vase pendant une heure, ou bien escalader de fausses montagnes, des rochers de 3 mètres. Oui, on m'a fait manger 3 fois de suite parce que c'était pas réussi. Et je buvais des fonds de bouteilles, je mangeais des carcasses de poulet, c'était pas très agréable.
C'était les premiers et deuxièmes volets d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco, menée par Claudine Chonez et diffusée pour la première fois sur France Culture les 17 et 18 mars 1975. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.